France Culture vous est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Rachida Dati n'échappera pas à un procès. La ministre de la Culture est renvoyée en correctionnel pour corruption et trafic d'influence dans le cadre de l'affaire Carlos Ghosn. Les explications de Florence Thiom dans un instant. Les États-Unis quittent l'UNESCO. Donald Trump reproche notamment à l'agence onusienne un parti pris hostile à Israël. Le président américain qui avait déjà pris une telle décision lors de son premier mandat en 2017. En Ukraine, le Parlement remet en cause la lutte contre la corruption en limitant les pouvoirs des organismes de contrôle, une décision qui inquiète l'Union européenne. Le Covid n'a pas augmenté les troubles de l'anxiété, affirme une étude de Santé publique France. Des troubles qu'il ne faut pas confondre avec les dépressions qui, elles, ont augmenté pendant la crise sanitaire. L'horizon s'obscurcit pour Rachida Dati. La ministre de la Culture est renvoyée en correctionnel pour corruption et trafic d'influence. Les juges d'instruction ont également ordonné le renvoi en procès de Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault-Nissan, actuellement réfugié au Liban après sa fuite du Japon. En 2019, Rachida Dati est soupçonnée d'avoir perçu indûment des honoraires d'une filiale du groupe automobile. Florence Thiom, bonsoir.
Bonsoir.
Rachida Dati et Carlos Ghosn contestent ces accusations de corruption et trafic d'influence.
Oui, la défense de Rachida Dati a d'ailleurs multiplié les recours pour mettre fin aux poursuites sur ces faits qu'elle conteste et qu'elle estime prescrits. Le mois dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a rejeté sa demande en nullité déposée contre le réquisitoire du parquet national financier qui demandait son renvoi en correctionnel. Après 6 années d'instruction, les juges ont donc eu la même lecture du dossier que le PNF et estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments graves et concordants pour ordonner un procès. Rachida Dati sera jugée pour recel d'abus de pouvoir et d'abus de confiance, corruption et trafic d'influence passif, soupçonnée d'avoir perçu 900 000 euros pour des prestations de conseil actées dans une convention d'honoraires signée avec une filiale de l'Alliance Renault-Nissan, mais sans avoir vraiment travaillé, et ce entre 2010 et 2012, alors qu'elle était avocate et députée européenne. Les investigations cherchaient également à déterminer si cette convention d'honoraires aurait pu servir à masquer qui plus est une activité de lobbying interdite à tout élu au Parlement européen. L'ancien patron de Renault conteste lui aussi l'ensemble des accusations portées contre lui. Carlos Ghosn, 71 ans, possède la triple nationalité libanaise, française et brésilienne. Il vit désormais au Liban après sa fuite rocambolesque du Japon sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par la justice française. L'entreprise Renault s'est constituée partie civile dans le dossier. Reste à connaître, et c'est important compte tenu des enjeux politiques pour la ministre de la Culture, la date du procès à venir. Elle sera fixée fin septembre. Selon une source proche du dossier, l'audience pourrait toutefois se tenir après les élections municipales prévues en mars 2026.
Florence Thiom, merci. Effectivement, la ministre de la Culture espère ravir à la gauche la mairie de Paris en mars prochain. Et ce soir, Emmanuel Macron prend note de la décision concernant Rachida Dati, qui poursuit son travail au gouvernement, indique l'Élysée. Pour la deuxième fois en 8 ans, les États-Unis annoncent leur retrait de l'UNESCO. Un seul homme derrière cette décision, Donald Trump, qui reprochait déjà en 2017 à l'organisation onusienne un positionnement anti-américain. Rappelons que l'UNESCO est en charge de l'éducation, de la science et de la culture. En 2023, sous Joe Biden, les États-Unis l'avaient réintégré avant ce nouveau revirement aujourd'hui. On retrouve à Washington Ajra Mohammad, correspondante aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Ajra, le président américain accuse l'UNESCO de promouvoir des causes clivantes, mais aussi un parti pris hostile à Israël.
Oui, pour justifier sa décision, l'administration de Donald Trump rappelle l'admission en 2011 de la Palestine à l'UNESCO, admission en tant qu'État membre. Cela est hautement problématique et contraire à notre politique étrangère, affirme la porte-parole du département d'État américain chargé des relations internationales. Dans son communiqué, Tammy Bruce dénonce un parti pris contre Israël et des discours hostiles à ce pays qui prolifèrent selon elle au sein de l'institution sans en apporter la preuve. Mais Washington met aussi en cause l'influence prise ces dernières années par la Chine avec des ressortissants chinois nommés à des postes stratégiques à l'UNESCO, notamment son directeur général adjoint Xin Qiu. Enfin, l'organisation onusienne est accusée de mener une politique trop woke, notamment à travers ses programmes d'éducation. Ce retrait sera officiellement acté à la fin de l'année prochaine, le 31 décembre 2026. Une décision regrettable mais attendue, commente la directrice générale de l'UNESCO, la française 2016. Audrey Azoulay va devoir combler ce départ, car les États-Unis restent le premier pays contributeur au budget de l'agence à hauteur de 75 millions de dollars par an. Autant d'argent en moins pour la sauvegarde du patrimoine mondial, y compris pour les sites classés américains. Il y en a 26 au total. Parmi les plus célèbres, les parcs nationaux du Grand Canyon, de Yellowstone ou encore les volcans d'Hawaï.
Ajra Mohammad en direct de Washington, merci. Quant à Emmanuel Macron, il assure l'UNESCO de son soutien indéfectible après le retrait américain. La situation se détériore chaque jour davantage dans la bande de Gaza, selon le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Les morts et les destructions dans l'enclave palestinienne ont atteint un niveau sans équivalent dans l'histoire récente. Le risque de famine impacte désormais l'intégralité de la population et le travail des ONG devient de plus en plus délicat, notamment à cause des opérations menées par l'armée israélienne dans le territoire. C'est le cas depuis hier dans le secteur de Deir el-Bala, Alice Moreno.
Deir el-Bala, jusqu'ici épargné, vit désormais au rythme des assauts israéliens.
On entend très bien les bombardements, les tirs d'artillerie et les drones, c'est horrible.
Eyad Amaoui vit à Deir el-Bala. Il est à la tête du Gaza Relief Committee, un groupe d'ONG local.
Nous sommes dans la dernière ville qui a des infrastructures fonctionnelles pour apporter des services aux civils.
Le risque, c'est l'anéantissement des dernières ONG opérant dans Gaza. Les bureaux de l'Organisation mondiale de la santé ont aussi été pris pour cible par les soldats israéliens hier.
Les bureaux de l'OMS à Deir el-Bala ont été largement endommagés. Trois membres du personnel ont été arrêtés et interrogés.
Pendant ce temps, Gaza meurt de faim. 21 enfants sont morts au cours des trois derniers jours dans les hôpitaux à cause de la famine. Et selon les Nations Unies, plus d'un millier de Gazaouis ont été tués par l'armée israélienne à proximité des points de distribution d'aide de l'organisation GHF gérée par Israël.
Alice Moreno, Proche-Orient. La France se demande que la presse libre et indépendante puisse accéder à Gaza pour montrer ce qu'il s'y passe. Déclaration cet après-midi du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'est une réforme législative qui passe mal en Ukraine. Trois ans et demi après le début de l'invasion russe, le Parlement ukrainien a voté aujourd'hui une loi qui accroît le contrôle de l'exécutif sur deux organismes chargés de lutter contre la corruption. Un vote qui inquiète l'Union européenne. Bruxelles rappelle que le respect de la démocratie en Ukraine détermine son aide financière au pays. Bastien Bory nous appelle de Kiev.
L'histoire de la guerre en Ukraine est aussi celle d'une centralisation du pouvoir dans le pays. Désireux d'échapper au contrôle démocratique, certains partis politiques ukrainiens, sous couvert d'urgence, pèsent de leur poids pour faire adopter des décisions controversées sans débat public. La loi votée aujourd'hui en lecture accélérée en est un exemple. Deux institutions anticorruption de premier plan perdent en indépendance, en plus de subir une série d'enquêtes visant leurs employés pour des motifs que beaucoup jugent fallacieux. Pour sa part, le président ukrainien est pris en étau, lui qui doit d'un côté conserver le soutien de l'Occident très attaché à la lutte anticorruption et de l'autre consolider son pouvoir en interne sur une classe politique fragmentée où figurent de vieilles élites parfois corrompues ayant survécu à l'élection d'un Zelensky qui promettait pourtant la rupture. Quoi qu'il en soit, ce développement intervient alors que le ministre français des Affaires étrangères termine à peine sa visite à Kiev, lui qui se réjouissait hier encore des 30 milliards d'euros d'aide budgétaire européenne fournie à l'Ukraine ces dernières années, mais qui voit celle-ci flirter avec les lignes rouges.
Bastien Bory, correspondant de Radio France en Ukraine. Depuis un an, l'artiste chinois Gao Zhen est emprisonné dans son pays. L'aîné des frères Gao, figure mondiale de l'art contemporain, est dans le collimateur du régime communiste. Les autorités lui reprochent d'avoir porté atteinte à l'honneur des héros et martyrs de la Révolution chinoise. Alors que le procès de Gao Zhen doit s'ouvrir prochainement, son avocat appelle à la mobilisation internationale pour le soutenir. Les explications de Nathanaël Charbonnier.
C'est la force des artistes de savoir critiquer le monde avec une peinture, un texte ou une sculpture. Les frères Gao, eux, ont touché dans les années 2000 à l'intouchable pour Pékin, à savoir l'image de Mao, explique la sinologue Marie Holzman.
C'était des sculptures qui étaient, si j'ose dire, rigolotes, quoi. Elles étaient peintes en rose, on voyait Mao avec une poitrine très rebondie, des seins gonflés, etc. Enfin, toutes sortes de représentations sans aucun respect.
Des provocations que l'artiste pourrait payer très cher au terme d'un procès dont l'issue est connue d'avance, car Pékin fait taire toutes les oppositions, estime la sinologue.
On assiste en Chine à une répression qui a d'abord touché, disons, les dissidents notoires, ensuite ça a touché les avocats, ensuite ça a touché les environnementalistes, et maintenant on touche les artistes. Et c'est pour ça que ça suscite une réaction en quelque sorte terrifiée, c'est-à-dire que plus personne n'est à l'abri de la répression en Chine.
Et c'est par mail que le frère de l'artiste a communiqué ce week-end pour s'inquiéter de sa santé et en rappelant la promesse du président Macron de soutenir son combat, notamment avec ses ministres des Affaires étrangères et de la Culture.
Le Covid n'a pas provoqué de hausse durable des troubles anxieux au sein de la population française. Voilà ce qu'affirme une étude de Santé publique France. Un constat qui peut surprendre alors que les dépressions ont augmenté pendant la crise sanitaire. Mais l'agence insiste justement sur la distinction entre dépression et troubles anxieux. Éléonore Claude.
Si les chercheurs ont pu montrer que la pandémie du Covid-19 avait entraîné une augmentation des dépressions entre 2017 et 2021, les troubles anxieux, eux, n'ont pas perduré. Parce que ce n'est pas la même chose, explique Anna Beyeler, directrice de recherche INSERM à l'Institut François Magenzy, à Bordeaux.
Ils utilisent une échelle pour mesurer l'état anxieux, mais ce n'est pas équivalent à un diagnostic de trouble anxieux. Donc ce n'est pas forcément une pathologie. Et ensuite, la dépression, c'est vraiment une autre maladie mentale. C'est pas les troubles anxieux, c'est d'autres symptômes et aussi d'autres durée dans le temps pour poser le diagnostic.
Selon le rapport, les personnes en difficulté financière et avec un niveau d'études inférieur au bac sont plus sujettes à l'anxiété. Et puis le genre est également un facteur déterminant, puisque les femmes ont une probabilité 3 fois plus grande que les hommes de manifester un état anxieux. Mais il y a un biais, précise la chercheuse.
Le fait que les femmes auraient plus de facilité à chercher de l'aide, c'est un facteur reconnu. Les hommes ont plus de difficultés à les consulter pour des troubles en particulier anxieux. Là, en l'occurrence, la différence est juste de façon générale. On ne sait pas si c'est neurobiologique ou environnemental. Quand on a une maladie cardiovasculaire, on a des biomarqueurs très précis. Alors que là, quand on fait des études sur les maladies mentales, c'est juste ce que les gens rapportent. Donc il y a forcément des biais personnels.
12,5% des 18-85 ans présentaient un état anxieux au moment du sondage, en 2021. Mais ce chiffre global ne prend pas en compte les 11-15 ans, dont selon l'Ipsos, la moitié était dans un état anxieux en 2023.
Explication signée Éléonore Claude. Faut-il prêter la tapisserie de Bayeux au British Museum de Londres ? Oui, a estimé Emmanuel Macron le 8 juillet dernier lors de sa visite d'État au Royaume-Uni. L'œuvre inscrite au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO sera exposée l'an prochain dans le prestigieux musée britannique, l'institution qui présente toutes les garanties de sérieux. Mais l'opération soulève toutefois bien des questions au regard de la grande fragilité de la tapisserie. Conservatrice restauratrice Talia Bajon-Bouzid était l'invitée des Matins de France Culture aujourd'hui. L'occasion pour elle d'expliquer à Astrid de Villene ses réticences.
J'ai été très étonnée, oui, même si on en parlait depuis un certain temps, que la décision soit prise, oui. Mais en fait, les conclusions de nos études ont montré que c'était compliqué, que c'était très complexe, que ça risquait d'engendrer des dégradations, à la fois donc durant son transport, mais également au moment de sa mise en place. Elle n'a pas encore été restaurée, elle n'a pas de soutien, elle n'a pas de doublure. Et c'est ce qui nous préoccupe. Toute manipulation sera un danger pour elle.
Le risque, c'est qu'elle se désagrège ?
Non, elle n'ira pas jusqu'à se désagréger, mais en revanche, on risque d'avoir des dégâts qui seront irréversibles. Une déchirure, même si on restaure par la suite, en fait, par souci d'authenticité, on ne la refera pas, elle restera déchirée.
Talia Bajon-Bouzid, est-ce que vous avez eu des contacts avec le président de la République ? Est-ce que vous avez essayé de peser ? Est-ce que vous vous êtes senti un peu ignoré par le pouvoir en place ?
Non, on n'a pas du tout été contacté par le président de la République. J'ai eu, il y a quelque temps, un contact avec le ministère de la Culture qui s'est très très bien passé. Moi, je suis en relation directe avec la DRAC et c'est eux qui prennent le contact. La prochaine étape prévue, en tout cas, par la DRAC, est sa restauration. Donc, il y aura sans doute un marché public à ce moment-là qui sera publié. Et donc, plusieurs équipes vont sans doute postuler pour restaurer la tapisserie.
Et vous pouvez réécouter en une de notre site les Matins de France Culture entièrement consacrés à la tapisserie de Bayeux. Sachez enfin que ce prêt doit se faire en échange de la venue en France des pièces médiévales issues du trésor de Sutton Hoo, considérées comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques au Royaume-Uni. Le temps, demain, un nouveau passage pluvieux touchera la plupart des régions. Le matin à l'ouest, l'après-midi sur la façade est, quelques orages possibles également sur les régions méditerranéennes. Les températures sont agréables, entre 11 et 20 degrés le matin, entre 20 et 30 degrés l'après-midi, jusqu'à 34 degrés dans le Var et en Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia à la technique Jordan Fuentes.